Avertissement.
Ce programme pourrait ne pas convenir à un public infantilisé. La supervision du gouvernement est conseillée.
Vous êtes la masse critique. La masse critique. Écoutez Radio Masse Critique.
Bienvenue à cette troisième réunion des conspirationnistes anonymes. Alors, je suis content de voir des visages qui étaient là la semaine passée. On va commencer avec un petit tour de présentation. Qui veut commencer?
Moi, mon nom est Jocelyn. Je suis Asperger.
Bonjour Jocelyn.
Bonjour Jocelyn. Je suis Stéphane, je suis mythomane.
Bonjour, bonjour Stéphane. Stéphane. Moi c'est Nicolas, je suis schizophrène paranoïde.
Bonjour Nicolas. Avant toute chose, on tient à dire qu'on est très heureux de la présence des camionneurs à Ottawa et de tous ceux sur les routes du monde entier qui s'opposent à cette tyrannie sanitaire qui sévit depuis 2 ans déjà. Merci pour votre courage et quoi qu'il advienne, nous sommes avec vous.
Alors, au programme de cette troisième émission de Radio Masse Critique, on va commencer par parler de l'avant-procès du comité Corona, organisé par Rainer Fulmisch, qui va débuter le 5 février. Y a-t-il de l'espoir pour les vacciner? C'est ce qu'on va voir ensuite avec Jocelyn. Et pour finir, je vais improviser un rapport de mon investigation sur l'efficacité des vaccins. Mais avant, notre quiz!
De retour au quiz de Radio Masse Critique avec votre animateur préféré, Joe Coco.
Afin d'éviter toute confusion légale, nous tenons à préciser qu'il n'y a aucun public en studio.
Hey oui, c'est maintenant l'heure de la question adressée au public. Je rappelle le numéro pour nous rejoindre en studio, le 000-999-9944.
Afin d'éviter toute confusion légale, nous tenons à préciser que ce numéro de téléphone est fictif.
Tous les auditeurs qui trouveront la bonne réponse mériteront un bon d'achat de 10 $. Gracieuseté de la chaîne de restauration rapide, Bouffe de malade et de Radio Masse Critique.
Afin d'éviter toute confusion légale, nous tenons à préciser que ces bons d'achat ainsi que la chaîne Bouffe de malade n'ont aucune existence réelle, tout comme ce quiz, le numéro de téléphone et le studio.
Dans la catégorie « Histoire des nations modernes », parmi les extraits suivants, identifiez le ou les exemples de démocratie. Extrait A.
Das deutsche Volk eben doch wieder auf einer Ebene zusammen zu fassen.
Extrait B.
Se non verranno modificate alcune clausole di alcuni trattati di pace.
Extrait C. Extrait D.
Les policiers vont distribuer plus d'amendes. Puis je le répète, là, les amendes varient entre 1 000 et 6 000 $ par personne. Moi, je pense que c'est tout ce que méritent les gens qui ne respectent pas les consignes.
Alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge.
Attention, attention.
Votre gouvernement vous a trahi. Je répète, votre gouvernement vous a trahi.
Rest in peace, Nicodemus. You originate them style, yeah. Play by the king for love's all I bring. Tell him, Mr. Lover, keep you rocking and swing. More time me have me woman upon the bed spring. Tell him, Mr. Lover, on the pure timing. Anything me chat it with rhyming. Woman, them love how me sing. Me woman does a love me a hop. Take the weight upon me shoulder when she up me a hop. Throw me troubles through the window when she up me a hop. She's the queen that wears my ring. She treats the peasant like a king with all the loving where she brings. So she love me a hop. Happy cry when me woman all up me a hop. Cloud nine me depend when she up me a hop. She's the queen that wears my ring. She treats the peasant like a king with all the loving where she brings.
the way you want. You have me lot, princess, the perfect kind of woman when me want. Impress, cause you're the one that showed me the path. Success, just let me think, nowhere to start. Oh, when me come home after work and she relieve me of my stress. Arm around my shoulder, rest her head upon my chest. Set my bubble bath as I relax to her caress. That's how I know that truly I am blessed. Just how she love me up. Take the weight upon my shoulder when she up me up. Throw the troubles through the window when she rock me up. She's the queen that wears my ring, she treats the peasant like a king. With all the loving will she bring, just how she love me up. Happy cry when my woman all up me up. Cloud nine mid upon when she up me up. She's the queen that wears my ring, she treats the peasant like a king. With all the loving will she bring. Your love is like a tailor-made design. Seamstress, perfection overwhelms me, you're divine. Flawless, I thank my lucky stars that you are mine. God bless, so many spend a lifetime trying to find. I have a saint woman who'll be there to be my strength to treat me right. In my darkest hour, she'll be there to hold my life. Share a conversation on my pillow every night. Reminded every time she's in my sight. Just so she love me up. Take my weight up on my shoulder when she up me up. Throw the troubles through the window when she rock me up. She's the queen that wears my ring. She treats the peasant like a king. With all the loving will she bring, just so she love me up. Happy cry when my woman all up me up. Cloud nine mid the pan and she up me up. She's the queen that wears my ring. She treats the peasant like a king. With all the loving will she bring. Salute the woman, I for big them up. Them a hold the photo, you have to big them up. Have to give them peer props, so I will big them up. Them a render loving, you have to big them up. Salute the woman, have to big them up. Them a hold the photo, you have to big them up. Have to give them props, so I will big them up. Them a render loving, make me walk. Just so she love me up. Take the weight off on me shoulder when she up me up. Throw the troubles through the window when she rock me up. She's the queen that wears my ring. She treats the peasant like a king. With all the loving will she bring, just so she love me up. Happy cry when my woman all up me up. Cloud nine mid upon when she rock me up. She's the queen that wears my ring. She treats the peasant like a king. With all the loving will she bring.
Tell you Mr. Lover, keep you rocking and swing. More time me have me woman upon the bed spring. Tell you Mr. Lover on the pure timing. Woman them love how me sing. Me woman does a love me up. Take the weight up on me shoulder when she up me up. Throw the troubles through the window when she rock me up. She's the queen that wears my ring. She treats the peasant like a king. With all the loving will she bring, just so she love me up. Happy cry when me woman all up me up. Cloud nine mid upon when she up me up. She's the queen that wears my ring. She treats the peasant like a king. With all the loving will she bring.
Rainer Fulmich est l'avant-procès du comité Corona. Le 5 février 2022 sera initiée une procédure légale reconnue par la loi anglo-saxonne qui consiste en une présentation de la preuve devant jury d'un complot à laquelle participeront une vingtaine d'avocats, des juges, des témoins et des experts appelés le comité Corona. Il s'agit d'un avant-procès par lequel des jurys devront se prononcer sur la validité de la preuve. Par la suite seulement, un procès sera intenté contre cinq accusés qui sont Bill Gates, Anthony Fauci, Christian Drosten, Klaus Schwab, président du Forum économique mondial, le gestionnaire d'actifs BlackRock et enfin le laboratoire Pfizer. Cet avant-procès en préparation depuis 2020 par l'avocat Rainer Fulmich et associés aura lieu en sol canadien et sera diffusé en direct sur l'ensemble des réseaux alternatifs. Au fondement de la preuve est la démonstration des falsifications relatives aux tests PCR sur lesquels repose la pandémie et de nombreuses infractions et malversations, dont celle de crimes contre l'humanité. Parallèlement, un autre procès sera intenté en Inde contre Bill Gates pour meurtre. Cet avant-procès apportera sans doute un puissant éclairage sur un complot international lié aux milliardaires du Forum économique mondial. Est-ce que ce procès va être explosif?
Oui.
Ça risque.
En fait, c'est un avant-procès.
C'est un avant-procès. Un grand jury.
Donc c'est quelque chose de concret. Et puis, parce qu'on attendait depuis un certain temps de savoir qu'est-ce qui arriverait avec ça. On entendait qu'il y avait supposément un procès Nuremberg 2.0. Full Mitch Onier.
Non, c'est ça. C'est pas la même chose que Nuremberg.
Exactement.
C'est une rumeur qui était partie avec des gens qui republiaient ces vidéos.
C'est ça, exactement. Ben, c'était pas une mauvaise idée parce que bon,
non, ça a de l'impact.
C'est ça, exactement. Mais sauf que c'est pas ça. Fait que tout le monde se questionnait un peu. On savait pas trop. Tout le monde, bon, il y avait du monde qui était dubitatif, qui se demandait, bon, ben, qu'est-ce qu'il y a.
Mais en même temps, si tu suis un peu Rana Full Mitch, c'est pas mal une des sources, disons, juridiques les plus sérieuses.
Oui, mais au début, on le connaissait pas.
Ça fait un petit bout que je le suis, en tout cas. Ben, je le vois passer, puis il a
travaillé. Tu veux dire avant la pandémie?
Oui, le Corona Comité, ça date, là. Je n'ai pas la date exacte, mais ça fait un certain temps qu'il réunit des experts, puis il réunit des
oui, légistes. Mais je veux dire, ça a parti avec la pandémie, là.
Oui, après la pandémie, c'est ça.
Parce que moi,
mais assez tôt, là, c'est en 2020.
OK. Non, c'est ça. C'est sûr, on a commencé à entendre parler de lui. C'est... Moi, j'avais jamais entendu parler de lui avant.
Puis il est comme au centre de toute la coalition des juristes ou des avocats qui contestent les mesures.
Tout à fait.
Je sais qu'il collabore ici avec la Fondation pour la liberté.
Oui, tout à fait.
La FDDLP. Droits et libertés.
La Fondation pour la défense des libertés du peuple.
Il échange des experts, des expertises, s'envoie le rapport. Il travaillait aussi avec Carlo Brusa. C'est tout le réseau de la résistance juridique.
Okay.
Ça gravite pas mal autour de Full Mitch. Puis il interviewe beaucoup de gens qui ont été, comme il a interviewé Yeadon. Il a interviewé toutes sortes de personnes. Je me souviens plus le nom de la personne qui sortait les brevets par rapport au coronavirus.
Oui. Oui,
il fait beaucoup de recherches, puis de façon très sérieuse. Fait que ses dossiers sont solides.
Oui.
Ça va être très, très intéressant à suivre. Moi, j'invite les gens qui s'intéressent à ça pour avoir une idée de ce qui se passe, d'aller voir la dernière vidéo de Rainer Full Mitch sur François, qui est très pertinente, qui est traduite, c'est une interview en anglais.
On va mettre Qu'on a mis en référence sur notre site,
qui est traduit en français, en version française par Jeanne Traduction.
Ouais.
Donc, une excellente vidéo, puis ça vaut la peine de t'écouter, parce qu'on voit, il explique là, exactement qu'est-ce qui se passe.
Oui, puis il y a une entrevue aussi avec Chloé Flammery.
De Rainer?
Oui.
Ah ouais?
Où il explique, il fait tout un résumé en 6 minutes. On apprend à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Là.
En français?
Oui, en français. Ben, c'est-à-dire que sur le lien qu'on a partagé, il y a des sous-titres en français, tout est traduit.
OK, avec les sous-titres. Chloé Flammery, qui est aussi une des résistantes de la première heure suisse, une enseignante suisse. Oui. C'est ça.
Fait que je pense qu'avec ces deux documents-là, les gens vont être capables de se faire une réelle idée de ce qui se passe en ce moment.
Puis on mettra le lien aussi pour le comité Corona, pour aller directement à la source. Et c'est à suivre. Ça commence le 5 février, dans 4 jours.
Ça va être très intéressant.
Businessman. By the morning, and she by Benji says, cause he's a businessman. Benji buys and she says, cause he's a businessman. Benji buys and she says.
À notre émission du 18 janvier dernier, j'ai rapporté les résultats d'analyse au microscope, faites par plusieurs scientifiques et professionnels de la santé, du contenu de fioles de vaccins géniques COVID-19. Et il s'avère qu'un grand nombre de choses insolites et inquiétantes n'auraient pas dû s'y trouver. Je rappelle, des réseaux de nanocapteurs sans fil à auto-assemblage utilisant des points quantiques de graphène, des nanorouteurs, des nano-antennes, présence également d'aluminium, de substances non dégradables comme le silicium ou neurotoxiques comme le brome, un isotope radioactif qui n'existe pas à l'état naturel, le technétium, c'est-à-dire le technétium, et toute une gamme d'objets non identifiés, dont des organismes qui semblent animés d'une vie propre. Finalement, un dentiste a découvert dans la bouche de ses patients vaccinés, toujours sous microscope, des structures qu'il n'avait jamais vues auparavant, en grand nombre chez les vaccinés, mais aussi chez ses patients non vaccinés, en contact avec un entourage vacciné. Naturellement, chacun est libre d'accorder foi ou non à ses analyses scientifiques, mais pour ceux qui ont pris ces vaccins géniques COVID-19 et qui regrettent de l'avoir fait, parce qu'ils sont aujourd'hui mieux informés sur leur dangerosité, il existe peut-être une solution, ou à tout le moins un début de solution, pour nettoyer leur corps de ces substances indésirables et nocives. Il s'agit d'une solution de dioxyde de chlore. Non, c'est pas de l'eau de Javel, comme voudraient nous le faire croire tous les désinformateurs patentés qui remplissent les entrées de la recherche Google. À l'émission de l'Alliance humaine du 17 septembre 2021, la docteure Astrid Stuckel-Berger a interrogé le biophysicien Andreas Kalker sur les propriétés de sa solution de dioxyde de chlore, CDS, comme traitement pour les personnes vaccinées. Je vous fais entendre l'extrait de l'entretien.
Donc, vous avez un genre de mode d'emploi pour le faire. Alors, je vais lui demander où est-ce qu'on achète ça.
Usually you find it in the internet. There are several providers in Germany, in France. There's no publicity, actually. Yeah.
Okay. Alors, il y a plein de sites web, mais en France, il semblerait qu'il n'y en a pas.
French doctor who mm-hmm. used it successfully for cancer, and he made publishing some months ago, too.
Il y a un médecin français qui soigne le cancer et qui a publié avec succès.
I cannot promote anything because it's not a legal medicament. It's not authorized, and so it's authorized as a disinfectant because it's a disinfectant. We use it in the drinking water, but it's not a legal authorized by.
Voir qu'on est dans un système de santé qui a enlevé tout ce qui est bon marché et qui a interdit ce qui marche. Ça, on le voit maintenant clairement. Donc, en fait, ce n'est pas sous l'égide d'un médicament. C'est une autorisation pour un désinfectant. Donc, on prend du désinfectant, en fait, mais ça peut soigner jusqu'au cancer. Et ce n'est pas toxique, il y a assez d'études. Donc, lui, il ne peut pas faire la promotion d'un produit ou l'autre, mais c'est autorisé comme désinfectant. Maintenant, j'ai une question concernant le graphène et concernant l'oxyde d'éthylène. So, yeah, you know that we're talking about graphene, but we will come back to also Christian about his experience with this. But does it clean the graphene in the blood?
Yes, it does. It does because we have to understand that the graphene is not the only one. You have graphene, you have magnetite crystals, and the worst of all, you have the spike. The graphene and the magnetite crystals create a catalytic effect. So it's not the graphene itself so dangerous, it's together with the spike. And chlorine dioxide oxidizes definitely cysteine and tryptophan of the spike.
Okay. Really? Wow. Bon, ben, vous avez une primeur là. Donc le dioxyde de chlore, en fait, il dit il y a le graphène, mais il y a aussi des cristaux magnétisés. Et que ce qui est dangereux, c'est le graphène qui s'allie au spike, à la protéine de spike. Et c'est ça qui fait le danger. D'ailleurs, ça se réplique énormément, c'est un accélérateur. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en prenant du dioxyde de chlore, vous coupez le vrai danger, il est dans la protéine de spike qui est avec le graphène. Et en prenant du dioxyde de chlore, ça coupe ce tryptophan et l'autre. Et ça les coupe, which one? Tryptophan and cysteine. Et la cystéine. Donc, les deux protéines qui sont dangereuses, ça les désactive complètement. Ça les détruit. It destroys them or désactivates them?
It destroys them because voilà. Of the piece that we make it in Sirico, in the publishing, and you can see it.
Ah oui, alors ça détruit les deux protéines et ils l'ont vu dans le labo. Ils ont fait vous pouvez trouver son article scientifique sur le sujet. Désinfectant. Ah ouais, merci. Donc, vous pouvez trouver sur le site d'Andreas Kalker tous ces articles scientifiques qui ont prouvé que ça marche comme ça avec la protéine de spike qu'ils ont observé en laboratoire. Donc, ça, c'est quand même extraordinaire parce que en prenant que ça, on n'a pas besoin, on a une certaine garantie que ça nettoie votre vaccin.
Yes, well, with the doctors of the Komusav, we have already quite a lot of cases where the people were magnetic, for example, in the nose, they were because it later goes up, so it was magnetic in this space, and you can measure it with an EMF meter, so it's not just sticking, you know, we don't have to, to measure it in with this. And after 21 days of chlorine dioxide, of drinking the protocol C15 or C20 and the protocol K that's in the website too, the magnets did not stuck anymore.
Wow. Ok, donc en fait ils ont fait aussi une recherche sur les propriétés d'enlever l'électromagnétisme qui est induit par ce graphène spike, et en fait le dioxyde il enlève carrément tout le magnétisme de ce vaccin. Et le protocole, il est là. Donc, en fait, ils l'ont mesuré. Ils ont mesuré avec un appareil qui est EMF. C'est un appareil qui mesure vraiment l'électromagnétisme dans le corps, pas seulement avec des cuillères, etc. C'est vraiment une mesure très scientifique. Et donc, il a un protocole qui s'appelle le protocole C15, C50 et K.
J'aimerais préciser, pour éviter tout malentendu, que le docteur Andreas Kalker est un véritable scientifique qui fait des recherches sur sa solution de dioxyde de chlore depuis 14 ans, qui a écrit des livres sur le sujet, seul ou en collaboration avec d'autres scientifiques, et déposé 4 brevets, dont un est en attente d'approbation. Il fait remarquer sur son site web, on va mettre tous les liens utiles là, sur notre site radiomasscritique.tk, que ceux qui pensent que le dioxyde de chlore ne peut pas être ingéré pour soigner des affections, parce qu'il serait un désinfectant, que l'alcool que nous buvons en est également un, et qu'on n'en fait pas vraiment de cas. Voici deux passages tirés de son site web. Le premier. Le ClO2 est l'un des biocides les plus efficaces contre les agents pathogènes, tels que les bactéries, les champignons, les virus, les biofilms et autres espèces de micro-organismes susceptibles de provoquer des maladies. Il agit en perturbant la synthèse des protéines de la paroi cellulaire de l'agent pathogène. En tant qu'oxydant sélectif, son mode d'action est très similaire à la phagocytose, où un processus d'oxydation doux est utilisé pour éliminer tous les types de pathogènes. Il convient de noter que le ClO2, généré par le chlorite de sodium, est approuvé par l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis et par l'Organisation mondiale de la santé pour une utilisation dans l'eau propre, à la consommation humaine, car il ne laisse aucun résidu toxique. Le second passage. Comme il n'y a pas d'adaptation possible du virus au processus d'oxydation, il lui est impossible de développer une résistance au ClO2, ce qui en fait un traitement prometteur pour toute souche de virus. Fermez les guillemets. Le dioxyde de chlore est également extrêmement efficace pour soigner le coronavirus humain de type 2, l'agent étiologique du SARS-CoV-2. Il peut être utilisé en prophylaxie pour prévenir la maladie et la soigne aux trois stades de la maladie. Dans une entrevue avec Stu Peters en novembre 2021, le docteur Manuel Aparicio, qui utilise aussi le dioxyde de chlore pour soigner la COVID-19, affirme que le taux de guérison est de 99,3%. Et selon ce qu'il rapporte, 5000 médecins dans 25 pays dans le monde utilisent le dioxyde de chlore pour traiter la COVID-19. Je vais citer à nouveau quelques passages du site du Dr Andreas Kalker. Si les avertissements concernant la toxicité supposée de la FDA et de l'OMS étaient vrais, les hôpitaux boliviens devraient être remplis de personnes intoxiquées, ce qui n'est pas le cas. En fait, il n'y a pas de décès ni de blessures après plus de 20 000 cas traités. En Bolivie, après avoir étudié les effets du CDS, sa solution de dioxyde de chlore, dans des milliers de cas directement dans les hôpitaux et les cliniques, il a été possible de constater son efficacité contre la COVID-19 sans aucun effet négatif et il est devenu non seulement une loi départementale, mais aussi une loi étatique approuvée. Comme exemple de l'utilisation consciente et compatissante, comme exemple de l'utilisation consciente et compatissante du dioxyde de chlore, ClO2, nous pouvons citer l'État plurinational de Bolivie, après un long processus de débat et de résolution dans le cadre de l'exercice des droits de l'homme et dans le cadre de la loi de participation et de contrôle social, la population a exigé, à travers ses représentants de l'Assemblée départementale et nationale, la loi qui permet l'autorisation de la production, la distribution avec contrôle de qualité et l'utilisation compatissante du dioxyde de chlore. Fin des citations. J'ai exploré un peu sur le net et on peut s'en commander. Il faut seulement s'assurer que c'est le bon produit dans les bonnes proportions en vérifiant sur le web sur le site web du Dr Andreas Kalker. Attention, la solution de dioxyde de chlore CDS n'est pas la même que celle du MMS qui est aussi très connue. Alors pour conclure, le dioxyde de chlore me semble prometteur en termes de résultats concrets pour aider les personnes vaccinées à débarrasser leur organisme des substances indésirables des vaccins géniques COVID. Mais on va rester à l'affût de toute solution alternative qui pourrait se présenter, puis au fur et à mesure, on va vous en faire part.
Ben moi, j'aurais une question au sujet-là. Écoute, est-ce que le dioxyde de chlore serait l'ignominieux détergent auquel faisait référence le président Donald Trump?
Exact. On se souvient de cet épisode-là.
On sait que le président disait, que le détergent était injectable. Et on sait aussi que, d'après le docteur...
Andreas Kalker.
Andreas Kalker, que le produit est injectable.
Oui, en infusion.
Donc, ça pourrait être le fameux détergent, l'infâme détergent du président Trump.
Qui a donné lieu à plusieurs mimes sur Internet.
Oui, puis tout le monde en a ri, mais en réalité, c'est un procédé tout à fait
mais normal. Est-ce que c'est vraiment c'est à ça que Trump faisait référence?
Moi, je croirais qu'il faisait référence absolument, à ça. Oui, absolument. Mais on ne peut pas le démontrer, là. Ouais. Mais...
Il y avait surtout des histoires de lumière UV là, dans les poumons. Ouais. Ça avait fait scandale aussi.
Oui, puis d'ailleurs, dès qu'on fait un peu de recherche sur Internet, qu'est-ce qu'on rencontre? Des supposés experts fact-checkers qui n'arrêtent pas de nous répéter que c'est de l'eau de Javel, puis que c'est dangereux, puis que c'est des... qu'on est des fous là, incapables de comprendre quoi que ce soit de raisonnable. Alors qu'en réalité, dès qu'on se penche sur ces questions-là...
On trouve des références.
Ben oui, c'est scientifique, c'est démontré, il y a des brevets.
Des gens qui l'utilisent.
Écoute...
Les nations, hein, comme en Bolivie, l'acceptent.
Oui, puis le dioxyde de chlore est utilisé pour nettoyer les poches de sang. C'est quand même assez clair,
ça. Détruit quand même pas le sang.
Exactement. Ça fait que ça nettoie le sang. Ouais. Ça fait que c'est fiable. Là.
Ça ne doit pas détruire le sang.
Sauf que...
Nous, on n'est pas médecins, là. Ni experts en produits nettoyants.
Tu sais, le sens commun...
Informez-vous comme il faut.
Le sens commun, s'il vous plaît.
Mais il y a ça aussi... Il y a ça en commun dans tous les débunkers et les fact-checkers. C'est qu'ils assument tout le temps. Ils nous parlent tout le temps en disant vous êtes idiot. Vous n'êtes pas capable de comprendre. La science, c'est pas pour vous.
Oui, exactement.
La science, c'est pour les experts, c'est pour les gens qui sont qualifiés, qui ont un sceau du gouvernement. Mais la science, c'est une faculté humaine. N'oublions jamais ça.
Oui, puis c'est accessible. On est capable de réfléchir. On n'est pas obligé de tout connaître. On n'est pas obligé d'être un scientifique pour comprendre les conclusions. Puis ce que nous explique un scientifique, c'est pas obligatoire.
C'est ça.
Enlevez-vous ça de l'esprit, là. Vous avez la capacité de le faire.
Moi, ce que je trouve intéressant dans cette histoire-là, c'est que ça permet de soigner également les gens qui sont vaccinés, les soigner du vaccin. Parce qu'on va peut-être voir que dans l'avenir, c'est peut-être de ça qu'on va avoir besoin plus qu'autre chose.
Exact.
Mais également le COVID.
Oui, exactement. Ça soigne un paquet de maladies. C'est pour ça qu'il y a un acharnement. Tous les produits qui sont efficaces, on voit qu'il y a un acharnement constant depuis le début de la pandémie pour dénaturer, enlever le crédit. C'est pas bon, ça va vous tuer, ça va vous rendre...
C'est là qu'on voit au fond qu'on est pris avec une dictature des entreprises pharmaceutiques en réalité.
Mais là, voyons donc,
qui dicte les médicaments qui doivent rentrer, qui doivent être approuvés ou non.
Si c'était vrai,
si au moins
on
n'aurait
pas besoin de Big Pharma. ça se peut pas.
Ben non, c'est pas possible.
Donc on voit que ça précède de loin le coronavirus, cette histoire-là.
Mais je pense que la crise actuelle a montré, en fait, révèle le fait qu'on a un très grave problème avec les entreprises pharmaceutiques et la médecine.
L'ampleur de la corruption au sein des pharmaceutiques.
C'est vraiment, vraiment problématique.
Exactement. Ils ont infiltré tous les niveaux décisionnels, partout où se prend une décision... en termes de loi, en termes de permission.
D'application.
C'est eux qui contrôlent les ordres des médecins. Puis
exactement.
Ils ont tout infiltré depuis longtemps.
Tout est harnaché.
Ça date de quoi, l'après Deuxième Guerre?
Ah,
ça
oui.
A commencé
exactement,
même avant.
Exactement. Ils ont harnaché le système de santé de A à Z.
On nommera pas de nom, mais on le sait que c'est corrompu.
Oui.
All right. Prochain sujet. Est-ce qu'on va en musique?
On va aller en musique.
Parfait.
Aceso em mim, tá tudo assim, tão claro, tá tudo brilhando em mim, tudo ligado, se eu fosse um morro iluminado por um âmbar elétrico que vazasse nos prédios e banhasse a lagoa até São Conrado e ganhasse as canoas aqui do outro lado. Tudo plugado, tudo me ardendo, tá tudo assim queimando em mim, como salva de fogos, desde que sim eu vim morar nos seus olhos. Tá tudo assim queimando em mim, como salva de fogos, desde que sim eu vim morar nos seus olhos. Aceso em mim, tá tudo assim tão claro, tá tudo brilhando em mim, tudo ligado, como se eu fosse um morro iluminado por um âmbar elétrico que vazasse nos prédios e banhasse a lagoa até São Conrado e ganhasse as canoas aqui do outro lado. Tudo plugado, tudo me ardendo, tá tudo assim queimando em mim, como salva de fogos, desde que sim eu vim morar nos seus olhos. Tá tudo assim queimando em mim, como salva de fogos, desde que sim eu vim morar nos seus olhos.
Alors, les vaccins sont-ils efficaces? C'est la question que je me pose, depuis un certain temps.
Importante question.
Il y a deux semaines, on faisait une réunion de pré-production pour notre deuxième émission. On avait une discussion, on voulait prendre une campagne du gouvernement où ils disent des énormités sans fondement. On se dit, on va les mettre à l'envers, on va dire le contraire. Puis là, j'avais dit, ouais, mais attends, là, les vaccins sont pas efficaces, parce que le gouvernement disait, les vaccins sont efficaces. De dire, les vaccins sont pas efficaces, moi, je suis pas prêt à affirmer ça, sans avoir mis le doigt, tu sais, avoir la preuve qu'ils sont pas efficaces. Fait que c'est une question que j'ai dans la tête.
Oui, il faut quand même être objectif, là.
Il faut avoir de la rigueur. Il faut avoir de la rigueur, c'est ça. Là, je cherche, puis il m'est arrivé un truc, il y a deux semaines, en fait. Bon, pour commencer, on sait que les chiffres officiels sont manipulés. Ça, on le sait.
Oui.
Ils sont manipulés, puis toujours pour aggraver l'apparence de la pandémie.
Oui, toujours.
Pour justifier les mesures. Toujours toujours manipulés dans le même sens. Par exemple, il y a l'histoire de « avec COVID », que tous les cas COVID,
oui,
sont pas des cas qui sont malades du COVID. Ils ont été testés positifs au COVID. Fait que là, ça fait gonfler les chiffres du COVID. Ouais. Ça fait gonfler le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, le nombre de décès. Parce que même les décès qui sont positifs COVID, même si le gars meurt ou la fille meurt du cancer, ils sont comptés COVID. Ouais, on est au courant.
Tu te fais écraser par une voiture, tu as la COVID, ben c'est COVID.
T'es testé COVID, COVID.
C'est ça. C'est pas tout le monde qui a l'air au courant, mais bon. Des fois, il y a des choses. Pour nous, c'est des évidences. Mm-hmm. Pour la plupart des dissidents, c'est une évidence. Il y a aussi l'histoire du lien épidémiologique qui fait gonfler encore une fois les chiffres.
Oui.
Que tu n'as même pas besoin d'être testé. Faut juste que ton coloc soit.
C'est ça. C'est le principe, le principe de précaution.
Soit testé le COVID ou soit lui-même par lien épidémiologique. Fait que là, ça fait gonfler les chiffres encore.
C'est bon, ça.
Il y a les tests rapides aussi. Ça, c'est important parce qu'on voit. Là, on est dans quoi, la cinquième vague? Depuis le fin novembre, début décembre. Les chiffres, là, sont puis on n'arrête pas de voir les graphiques. Toutes les pro-vaccins, pro-mesures sont là. Regardez, c'est l'enfer. Mais depuis le mois de novembre jusqu'à à peu près 1er janvier, les taux de positivité sont passés de 3% à 30%. Puis là, vu que tout le monde qui teste positif est compté COVID dans les hospitalisations, les soins intensifs puis les morts, mais vu qu'il y a plus de monde qui teste positif, ça fait que les chiffres gonflent aussi. Par contre, côté mort, il n'y en a pas tant que ça dans cette vague-là. C'est plus comme les cas qui montent en fou. Mm-hmm. Puis évidemment, les hospitalisations, puisque tout le monde est testé.
Oui.
Mais là, vu que les taux de positivité passent de 3 à 30%, c'est sûr qu'il y a 10 fois plus de cas. Bon, c'est ce genre de manipulation-là. D'ailleurs, le gouvernement là-dessus est obligé de réviser puis de dire, ah ben là, on va arrêter de compter, ils ont comme émis une directive, j'ai pas la source directe, si vous l'avez sur l'INSPQ, vous allez voir qu'à partir de je sais plus quelle date en janvier, les données sont grisées, puis là, oups, ça se met à redescendre parce qu'ils ont arrêté de passer des PCR à tout le monde.
Okay.
Là, les chiffres deviennent normaux. Fait que c'est pas, il n'y a pas comme une grosse vague tout d'un coup qui a rabaissé, oui, c'est juste comme un effet de... Mm-hmm. Un effet des tests rapides,
c'est quand ils ont arrêté
plein de monde qui sont testés.
C'est quand ils ont arrêté de tester tout le monde pour ne c'est tester ça. Que les symptomatiques.
L'efficacité des vaccins, il faut être capable de distinguer le groupe vacciné du groupe des non-vaccinés. C'est la base. Il faut savoir combien de morts non-vaccinés, combien de morts vaccinés. Il faut que tu sois capable de faire ça. Mais ce qui est surprenant, c'est que ces données-là ne sont pas publiées dans les données publiques de l'INSPQ.
Pardon?
Si tu vas sur l'INSPQ, tu n'as aucune distinction vacciné-non-vacciné. Puis, il y a une confusion qui est entretenue, d'abord dans la présentation des données. Puis les données, ce qu'on voit, on voit souvent passer des graphiques comme de comparaison hospitalisation vaccinée-pas vaccinée. C'est toujours des graphiques de seconde main. On les voit à TVA, on les voit... c'est jamais l'INSPQ qui les émet. OK? Puis, dans la présentation, il y a souvent, on va souvent voir comme ils vont confondre les 0 et une dose. Puis tu dis, oui, mais là, c'est-tu...
Les véritables non-vaccinés, ouais,
les hospitalisés, sont-tu vaccinés ou vaccinés une dose? On ne le sait pas. Puis, dans la méthodologie, carrément, dans la méthodologie des données, il y a cette idée-là, puis on voit sur des graphiques, je vais sortir mes notes. C'est très improvisé, mon petit bloc, là, mais je pars avec mes notes. On va voir des trucs comme non vacciné ou une dose de moins de 14 jours, comparé à une dose de plus de 14 jours, puis deux doses de plus de 16 jours. Je suppose qu'ils sont rendus les deux doses de moins de 16 jours. Ils doivent être probablement avec les une dose de plus de 14 jours. Fait qu'il y a comme une confusion avec cette histoire-là de ça fait-tu 14 jours qu'ils sont vaccinés ou pas? Sont-ils comptés vax ou non vax? Ça fait un certain temps qu'on se pose des questions. On dit il doit y avoir quelque chose. Ça doit cacher quelque chose. Oui. Puis tu te dis. En fait, tu te dis, s'il y a plus d'incidence de COVID dans ces 14 jours-là, mettons de la première dose, si là, il y a une explosion de cas COVID, ben ils vont être comptés non vaccinés. Fait que si tu es capable d'établir qu'il y a une corrélation entre la vaccination et les cas COVID, ça veut dire que les cas COVID peuvent être provoqués par la vaccination. Mm-hmm. Puis dans ce cas-là, ils ne seront pas comptés comme vaccinés. Fait qu'ils vont se ramasser dans le groupe des non-vaccinés. Fait que les hospitalisations, les morts, les soins intensifs non-vaccinés, c'est des gens, en fait, vaccinés dans le temps de 14 jours.
Ouais.
puis l'efficacité du vaccin, ça rentre dans l'équation de l'efficacité des vaccins, parce que là, on va calculer l'efficacité sur les post-14 jours.
Voilà.
Comparé à les pré-14 jours. Fait que ça va booster l'efficacité artificiellement, l'efficacité visible des vaccins.
Ouais.
Fait que c'est ça qui est ça. Donc, la méthodologie, là, il a fallu trouver ça. Je pense que je vais y aller tout de suite avec un extrait de Raoult, parce que c'est lui qui m'a comme...
OK.
Il m'a allumé la lumière. Fait que là, c'est récent, ça date...
Il a allumé la lumière de pas mal de monde.
Ouais, puis c'est une question que je me posais, là, je discutais avec Alex, puis je disais, ah, c'est quoi cette histoire-là de 14 jours? Je dis, ouais, effectivement, c'est quoi? Puis je dis, ah, peut-être que lui, il répond à ta question. YouTube, 18 janvier, Didier Raoult. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller voir sur YouTube l'IHU Méditerranée Marseille, où Didier Raoult fait ses vidéos, puis c'est une source d'information objective, c'est une des meilleures. Puis ceux qui pensent que Didier Raoult est un imposteur, bon, probablement que c'est les mêmes personnes qui pensent que les Big Pharma sont bien intentionnés, qui sont honnêtes, que je vous dise. Oui.
C'est un des plus... Il est reconnu comme un des plus grands épidémiologistes au monde.
Ouais.
On n'arrête pas de...
guéri du monde depuis le début.
Ouais,
hein, il traite du monde, il teste, puis il guérit, puis il regarde les données à chaque jour.
Exactement.
C'est quelqu'un qui est capable de garder la tête froide. Ça, je pense qu'on a fait la démonstration. Ouais. Fait que Didier Raoult, c'est une excellente référence. Ouais. On l'écoute un petit peu. C'est quoi lequel il faut que je mette, là? Les cas qui surviennent.
Et là, une des choses qui a été enlevée de manière très claire et qui est restée dans l'esprit des gens, c'est que les cas qui surviennent très précocement après les injections sont enlevés. Ce qui n'est pas raisonnable. Il faut les conserver parce que, ce que je vous ai montré la semaine dernière, eh bien, il y a une partie très importante qui est liée à ça.
Donc, Didier Raoult confirme mon soupçon, il y a une partie très importante des cas qui sont écartés dans les 14 premiers jours.
Dans les 14 premiers jours.
Fait que là, je me suis mis à chercher, où l'énoncé méthodologique? C'est ça qui est important, parce que ce mélangeage-là, ce blendage des groupes vaccinés non vaccinés, se fait au niveau de l'État. Donc c'est l'État qui le fait. Je ne l'ai pas trouvé sur l'INSPQ, comme je vous dis, les données qui distinguent vaccinés non vaccinés ne sont pas sur l'INSPQ. Mais je l'ai trouvé, j'ai fini par le trouver au ministère de la Santé et des Services sociaux. Puis ce qu'on lit dans l'énoncé de méthodologie, c'est ça. Statut vaccinal. Le statut vaccinal à la date de déclaration de l'infection, non vacciné. Est considéré non vacciné, c'est quelqu'un qui n'est pas vacciné ou moins de 14 jours depuis la première dose. Vacciné une dose, c'est vacciné avec une dose depuis au moins 14 jours. Et vacciné deux doses, vacciné avec deux doses depuis au moins 7 jours, avec ou sans la dose de rappel. Donc, pourquoi on fait ça? On dit c'est parce que le vaccin n'a pas atteint son efficacité.
Exact.
Donc, on va les considérer non vaccinés. Sauf que s'il y a une incidence, puis c'est ce qui semble effectivement être, s'il y a une incidence de cas au début de la vaccination, ça
fuck elle les va passer inaperçue.
Ben, en fait, elle va passer du côté des non vaccinés.
C'est ça.
Effectivement.
Ça va fausser la comparaison entre le groupe contrôle et le groupe expérimental.
Là, ben, les médias vont se lancer sur la boulette.
C'est ça. Là, je vais vous lire mon hypothèse pour voir. On va vous lire ça vite fait. Faut avancer. Donc, l'explication de Raoult nous donne des indices. Si on peut établir qu'il y a une surincidence de COVID-19 juste après vaccination, alors les cas de COVID ainsi déclarés sont décalés vers l'échantillon X-1, ce qui avantage le groupe fraîchement revax par rapport au précédent. Il se pourrait même que ce soit la seule manière de préserver l'idée que le vaccin ait la moindre efficacité, alors même qu'il oppose sa propre capacité à induire la maladie qu'il prétend prévenir. Là, il y a comme deux hypothèses. Est-ce que ça booste l'efficacité artificiellement des vaccins? Mais peut-être que c'est le seul moyen de prouver l'efficacité des vaccins. Il y a comme deux hypothèses. Confondre les 0 et 1 doses fraîchement vaccinées permettrait d'attribuer tous les cas COVID induits par la première dose au non-vax et d'affirmer faussement que la première dose protège de l'infection. Les données que présente Raoult pour l'Écosse, il parle de l'Écosse dans cette vidéo-là. Je fais toujours référence à la même vidéo, celle du 18 janvier. Pourquoi Omicron résiste-t-il au vaccin? Donc, les données que présente Raoult pour l'Écosse semblent indiquer que les deux doses sont plus susceptibles de développer la maladie comparativement à tous les autres échantillons. La troisième dose semblerait réduire l'incidence. La troisième dose vient de commencer. Mm-hmm. Donc, elle semblerait réduire l'incidence, mais c'est la raison pour laquelle il remet en question cette histoire de décalage des cas d'un échantillon à l'autre. La surincidence des deux doses serait potentiellement attribuable à la nouvelle troisième dose. Mais la méthodologie bancale nous empêche de le savoir.
Pour trois doses, moi, je suggère d'être très attentif parce que, vous voyez, dans les vaccins, ce qu'on a vu pour l'instant, c'est qu'il y a plus de cas dans les 15 jours ou 3 semaines qui suivent l'injection vaccinale, et puis il y a moins de cas, et puis ça revient comme les autres au bout de 3 mois parce que la durée de la vaccination, on ne sait pas encore, hein, pour les boosters, on verra. Mais vous voyez, là, c'est pareil, ils font ce qu'on fait dans ces études, ce que moi, je crois qu'il ne faut pas faire, hein. Ils enlèvent les cas qui surviennent dans les 15 jours ou dans les 3 semaines pour le premier, dans les 15 jours pour le troisième booster. Ce qui veut dire que les gens qui viennent d'avoir un troisième booster dans les 15 jours se retrouvent dans 2 doses au lieu de 3 doses.
Là, on voit que les chiffres varient d'un pays à l'autre. Il y en a qui c'est 21 jours, 14 jours. Oui, nous autres, c'est 14 jours pour la première dose, 7 jours pour la deuxième dose. En écoutant ça, là, je me rappelle, entre-temps, j'ai vu une vidéo d'Alexandra Henrion-Code avec COVIDHub.ch. Elle a fait une conférence, là, il y avait, je me souviens plus qui, je dirais pas n'importe quoi. Puis elle a montré des graphiques où il y avait superposition, elle superposait en fait les vaccinations avec l'incidence de cas, avec l'île-de-Man. Là, tu voyais les doses de vaccins COVID, puis l'incidence de cas qui est vraiment frappante à... dans la troisième dose ici. Oui. Peut-être leur deuxième à eux autres. Là. Ça ressemble à une troisième dose. Où ils ont vacciné en masse, puis ils s'y mettent à avoir des cas COVID en masse, immédiatement après, là, quelques jours après. Puis Israël, où il y a, si tu superposes les doses de vaccins d'Israël avec les décès COVID d'Israël, c'est à peu près la même courbe. Je me disais, mais...
Non, non, c'est ça.
Est-ce une conspiration? Est-ce que c'est le vaccin qui cause le COVID? Est-ce que vous comprenez-tu? J'étais tout excité. Je voyais, je suis peut-être sur quelque chose. Il faut que je continue à creuser. Puis entre-temps, je tombe sur, bang! Alberta.ca, qui est le site de la santé publique d'Alberta.ca, c'est pas par là, c'est par ici, a publié par inadvertance des graphiques où il montre, et c'est très intéressant, tu vois, il y a trois lignes. Ça a été publié par inadvertance, ils l'ont retiré immédiatement, mais il y a des gens qui l'ont capturé. Okay. Puis on peut aller le voir sur The Wayback Machine de archive.org. Archive.ca? Non, archive.org. Puis j'ai téléchargé la page au complet, tout le document. Fait que là, t'as trois séries de graphiques. Dans chaque série, tu as deux graphiques, un pour la première dose, l'autre pour la seconde dose. Puis tu vois les cas, les hospitalisations, puis les décès. Puis le graphique des cas et des hospitalisations pour la première dose, c'est une grosse courbe. Il y a un gros pic dès le début de la vaccination, dans les 14 jours.
Oui, c'est ça.
Que tu as un pic de cas positifs, tu as un pic d'hospitalisation, tu as un pic de mort. Ça fait comme « wow », ça confirme l'hypothèse.
Ouais.
Par contre, pour la deuxième dose, c'est moins clair. Il y a un petit pic au début, dans les 14 jours, puis après ça, ça fait comme une espèce de courbe en cloche qui monte puis qui redescend. Puis là, je dis, on l'a, ça prouve tout ça. Ça prouve que c'est le vaccin qui tue le monde. C'est le vaccin qui donne le COVID. Puis là, je pars en fou, puis je me dis, là, je m'en vais sur Facebook, puis je publie ça. Je vais vous montrer ce que j'ai écrit sur Facebook. Là, peut-être vu, les gars. Je dis, ces données échappées sont normalement cachées du public et confirment très clairement l'hypothèse que l'efficacité des vaccins est en réalité négative. Parce que si les vaccins causent plus de cas qu'ils en préviennent, ça veut dire que l'efficacité est négative. Puis là, je me dis, on continue à regarder ça. Je dis, si ça, c'est vrai, on va pouvoir observer la même corrélation au Canada. Puis là, je suis allé voir à la source des tableaux que Henrion Code avait montrés. Elle avait pris les données, le graphique que je viens de vous montrer tantôt, de corrélation des doses de vaccins et des décès en Israël et des doses de vaccins et des cas COVID sur l'île de Man. Elle avait pris ça sur ourworldanddata.org/COVID-vaccination au pluriel.
OK.
Je suis allé voir là, j'ai dit on va aller voir, on va aller comparer Israël avec le Canada pour le fun. Puis là, je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça. Parce que la même corrélation, on la voit pas au Canada. Je vais essayer de faire court.
Mais au Canada, est-ce qu'on tient compte des 14 jours ou non?
Oui. Ben, en tout cas, au Québec.
Okay.
Au Québec, mais ça doit être à peu près les mêmes directives ailleurs. Mm-hmm. Mais là, Our World and Data, c'est les data pour. C'est comme. les data, les données agglomérées pour tout le Canada, c'est les données officielles. Les sources, c'est les données officielles. Puis ce qu'on voit, en fait, mettons, on regarde le nombre d'hospitalisations. En Israël, tu as une vague au début de l'année, puis une autre vague qui suit à partir du mois de juillet à peu près. Mais au Canada, c'est différent. Tu as comme la même vague au début de l'année. Oh, tu as une deuxième vague là. Puis là, si tu dis, on va aller voir ça, on va comparer ça avec les vaccinations. Puis tu vois qu'en Israël, les vaccinations, ça correspond à peu près, ça correspond aux vagues, comme on avait vu tantôt. À chaque vague de vaccination, tu as une vague de cas, tu as une vague d'hospitalisation, de soins intensifs. Mais au Canada, c'est différent. La première vague, nous autres, est décalée par rapport à notre première vague de vaccination a commencé après Israël. Israël, c'est un des premiers pays à vacciner. Oui. Fait que la vague est décalée. Fait qu'elle ne correspond pas à la première vague d'hospitalisation, puis de soins intensifs, puis de mort du Canada. Parce qu'il y a eu cette vague-là, la première vague qu'on voit en Israël, puis qui est corrélée avec la vaccination en Israël. Nous autres, on n'a pas commencé la vaccination, mais on a quand même cette vague-là. Donc, ça indique que, OK, calme-toi, le virus est quand même naturel, parce que tu as des vagues d'hospitalisation avant le début de la vaccination. Puis tu as la deuxième vague, la vague de vaccination, on a vacciné en fou. Puis ça correspond pas tout à fait à notre deuxième petite vaguelette d'hospitalisation.
Okay.
C'est comme si c'est juste la première partie qui pourrait correspondre à ça. Mais là, je suis allé, c'est ça que tu dis, parce que quand les données sont dissimulées comme ça, comme là, on voit les doses de vaccination sur Our World and Data.
Okay.
Mais on voit pas, ça distingue pas première dose, deuxième dose. Je suis capable d'aller distinguer première dose, deuxième dose, parce que j'ai vu que les graphiques qui ont été leakés, qui ont été échappés par Alberta.ca, c'est pas exactement le même graphique pour la première dose, la deuxième dose. Okay. Puis la première dose, c'est plus clair. C'est plus
ça ressemble un peu à l'heure, cette histoire-là.
Oui, oui. J'essaie de faire court, mais c'est comme ça finit plus. Fait que là, c'est en allant fouiller sur l'INSPQ que j'ai réussi à distinguer quand est-ce qu'on a donné les premières doses, puis la deuxième dose. Puis notre grosse vague, puis là, j'assume que ça a commencé à peu près en même temps partout au Canada. Je pense que c'est assez réaliste de dire ça.
Oui,
le gros des données que je vois semble confirmer ça. Qu'on a commencé les premières doses en même temps partout au Canada, à peu près. Fait que notre grosse vague de vaccination, en fait, ça commence par la première dose pendant à peu près depuis janvier, février. Ça a commencé en février 2021. On a commencé les premières doses. Ça va jusqu'à mai-juin. Mais début mai, on commençait déjà, fin avril, on commençait déjà la deuxième dose.
OK.
Fait que ceux qui ont été vaccinés en février, ils commençaient à avoir leur deuxième dose en mai. Fait que ça donne une grosse vague de vaccination.
OK.
Quand ils regardent de près, tu te dis, dans ce cas-là, les vagues d'hospitalisation pourraient correspondre assez bien, en fait, à la première dose.
OK.
Donc, là, excusez, je vous montre des graphiques à vous, les gars, vous ne les voyez pas. Je vais mettre tous les liens de tout ça dans... Donc, la petite vaguelette qui suit, c'est intéressant parce que tu vois qu'au Canada, on a deux vagues de COVID.
OK.
Alors que en Israël, tu as juste la première vague. Il n'y en a pas de deuxième. Mais l'Israël a synchronisé sa vaccination sur des vagues épidémiologiques. Ce qui fait que si le vaccin induit effectivement le COVID, ben ça va être dans la même vague, ça ne paraîtra pas.
OK.
C'est-à-dire c'est la vague de COVID. Mais au Canada, ça paraît. Parce que tu as la première vague, qui ne peut être que celle que le vaccin cause. Puis tu as une deuxième vague après, qui est assez inhabituelle. Puis la deuxième vague d'hospitalisation est un peu moins sévère que la première, naturelle. Par contre, la vague de soins intensifs est beaucoup plus prononcée. Puis on peut voir une corrélation aussi, si vous allez voir les données de vaccination sur l'INSPQ, je vous mets tous les liens dans mon dossier, dans mon fameux dossier. Juste avant qu'on commence la première vague, la première dose de vaccination, on avait déjà commencé à vacciner des gens, des travailleurs de la santé, puis les résidents des CHSLD, autour de janvier 2021. Ouais, pas mal en janvier. Puis on peut voir que comme une correspondance dans la première vague, une espèce de petit bump dans, au sommet de la première vague qui pourrait correspondre à cette première pré-vaccination. Donc, il se pourrait qu'il y ait une corrélation entre la première dose et les cas COVID. C'est ce que j'ai trouvé. J'en ai pas trouvé la preuve définitive. Okay. Parce que après ça, à force d'analyse, puis tu te dis, ah ouais, puis là, je suis retourné voir les graphiques d'Alberta.ca, puis tu te dis, en fait, leur graphique, ils présentent les hospitalisations en fonction du nombre de jours. Mais ça prend tous les gens qui ont été vaccinés du jour zéro, puis au moment où ils ont été hospitalisés. Puis évidemment que tu vois la corrélation, parce qu'ils ont tous été vaccinés pendant une vague d'hospitalisation.
Okay.
Fait que ça correspond, la vague que tu vois dans les 14 jours correspond à l'incidence générale du virus. Fait que c'est pas une preuve que c'est truqué. Il y a une corrélation, il y a une correspondance, ça ne le prouve pas. Donc, je suis pas capable de le prouver, mais ça n'exclut pas du tout l'hypothèse que la première dose induit le virus. Où c'est qu'on s'en va avec ça? C'est juste pour vous montrer, c'est ça. Vous montrer que c'est pas si simple que ça.
OK.
Puis, fouiller les données, c'est long, c'est fastidieux, parce qu'il faut que tu mettes en relation, comme là, j'ai pas fini. Si je voulais approfondir l'hypothèse, j'allais voir d'autres pays, voir comment ça se passe dans d'autres pays. Faudrait que puis les données sont pas directement là. Tu peux pas les mesurer directement. Il faut vraiment que tu fasses, tu y ailles par, tu dis, ah ben, si on enlève la deuxième dose, il nous reste la première dose, là, ça fit. C'est comme, ça donne mal à la tête. Puis là, okay, tu passes d'un graphique à l'autre. Fait qu'il faut formuler des hypothèses pour essayer de les vérifier. Donc, j'ai pas réussi à prouver, okay, hors de tout doute, que les vaccins induisent le COVID-19. Donc, si ça peut rassurer du monde, tant mieux. Voilà ce que j'ai réussi à trouver à date. Par contre, ce qu'on peut dire... Ah oui, puis un truc aussi, si je peux... Un truc qui pourrait rassurer les vaccinés, c'est que même si on admet l'hypothèse que les vaccins induisent la totalité des hospitalisations qu'on observe dans la deuxième vague, ben là, j'ai fait un petit calcul où j'ai pris le pic ici de patients aux soins intensifs au Canada en avril 2021, qui correspond à peu près à 1400 hospitalisations pour tout le Canada. Puis je dis, si je divise ça par le nombre de vaccinations par semaine qu'il y avait à cette époque-là, fait que donc si on induit que les vaccins causent la totalité des hospitalisations, mm-hmm, je diviserais là, pour tout le Canada 1400 cas, 1400 soins intensifs, divisé par 530 000 doses dans la semaine du 9 mars, ça nous donne 0,26% d'incidence. Ça, c'est si on dit, mettons, toutes les vaccinations qui ont été données dans cette semaine-là au Québec auraient provoqué la totalité des soins intensifs, des admissions en soins intensifs au Canada. Fait que si on veut avoir une meilleure idée de ce que ça donnerait au Québec, mettons, on divise par 4, on pourrait diviser par 5, parce qu'on a à peu près un cinquième de la population, mais si on divise 0,26% par 4, ça donne 0,06%. Donc, même si le vaccin induit tous les cas de la deuxième vaguelette de l'année passée, ça reste quand même un taux d'incidence de 0,06.
Okay.
C'est pas comme si ça causait systématiquement le problème. Je ne dis pas que l'hypothèse est confirmée, elle n'est pas écartée. Donc, on continue l'investigation. S'il y a des gens qui veulent commencer à fouiller là-dedans, je vous invite à nous communiquer vos résultats. Par contre, ce que je peux dire, c'est que Santé Québec a publié au 1er janvier. Puis là, je pense que je vais lire l'article. C'est un petit article, une petite brève. La situation... Parce qu'on voit que quand on regarde les statistiques qui sont disponibles, on voit que le vaccin a une certaine efficacité pour réduire les hospitalisations. Parce que les non-vaccinés sont surreprésentés à partir des données qu'on a, qui ne sont pas nécessairement exactes, parce que, d'ailleurs, l'INSPQ déclarait, juste une petite précision, quelque part, où est-ce que j'ai vu ça? Il déclarait la couverture vaccinale, ça c'est dans la méthodologie de la vaccination de l'INSPQ, la couverture vaccinale peut être surestimée à cause des données incomplètes au dénominateur. Des travaux sont en cours pour corriger cette situation. Fait qu'il peut avoir là matière à dissimulation. Donc ça se pourrait que la couverture vaccinale soit moindre. C'est ce que l'INSPQ décrit là. Mais à partir de ce qu'on a de données sur la couverture maximale, il semble qu'il y ait surreprésentation des non-vaccinés dans les hospitalisations, que cette surreprésentation-là augmente encore un peu dans les soins intensifs, puis que la surreprésentation augmente encore un peu dans les morts, les décès COVID. Ce qui permet de dire, à tout le monde qui veut bien le dire, que les vaccins réduisent les risques de mourir du COVID-19, réduisent les risques de complications du COVID-19, puis réduisent les risques d'hospitalisation du COVID-19. Donc jusqu'ici, j'ai pas réussi à démentir ça. Je pourrais pas dire que les vaccins ne sont pas efficaces à partir de l'information que j'ai réussi à analyser, parce qu'il y en a pas mal à analyser.
Oui.
Par contre, c'est ça, on va lire le petit article, la situation est en train de changer. Ces gradients-là sont en train de changer en faveur des non-vaccinés. C'est que les non-vaccinés sont de moins en moins représentés. Puis, en particulier, je vais retrouver mon petit article, excusez-la, c'est les données de Santé Québec. J'en ai donc bien des affaires là-dedans. OK, selon le gouvernement du Québec, sur les 15 845 nouveaux cas, l'on parle au 1er janvier 2022. Sur les 15 845 nouveaux cas, ce sont 12 476 personnes, soit 78,7%, qui ont été inoculées avec deux doses d'un vaccin au moins 7 jours avant leur test positif. Toujours selon la même source, ces 28 derniers jours, ce nombre est majoritaire chez les personnes vaccinées de deux doses d'un vaccin il y a au moins 7 jours. Ce sont 130 810 nouveaux cas qui ont été enregistrés sur 170 365 nouveaux cas. Encore là, les non-vaccinés sont encore légèrement surreprésentés. Mais ça réduit, le rapport réduit. Les personnes, ça c'est important, les personnes non vaccinées auraient 0,7 fois plus de chances que les personnes vaccinées de se faire infecter en date du 1er janvier, alors qu'elles avaient 3,5 fois plus de chances d'attraper le virus en date du 1er décembre. Donc c'est passé de 3,5 à 0,7. Mais si j'ai 0,7 fois plus de chances d'attraper le virus qu'un vacciné, ça veut dire, en fait, on multiplie par un nombre inférieur à 1, mm-hmm. C'est-à-dire que j'ai 30% moins de chances d'attraper le virus. Vous comprenez? Cette donnée-là est importante parce que ce qu'elle dit, c'est que c'est les vaccinés qui transmettent le virus. Les vaccinés sont plus transmetteurs. Ils ont plus de chances de l'attraper et de le transmettre. Donc, quand quelqu'un vous dit que c'est à cause des vaccinés, s'il y a autant de cas de coronavirus, vous pouvez le répondre, depuis le 1er janvier 2022, ce n'est plus vrai, mon ami. Et d'ailleurs, quelques jours après, Santé Québec publie son tableau de bord de la situation COVID, a arrêté de présenter cette information-là.
Ah, okay.
Parce que ça n'allait plus dans le sens du discours.
Mm-hmm.
Donc, c'est en train de dropper. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les vaccinés ont plus de chances d'attraper le virus que les non-vaccinés.
Mm.
Et si la tendance se maintient, on a en Écosse la situation de l'Écosse. Quand on regarde les données en Écosse, je vous invite à aller consulter ça, il semble bien que les données confirment que l'efficacité des vaccins est négative. Parce que en Écosse, les non-vaccinés sont toujours sous-représentés, tant en termes de contamination, d'hospitalisation, de soins intensifs et de mort. Je pense que j'ai fait le tour.
Ouais, c'est pour ça que toutes les mesures de restriction sanitaire sont en train d'être abandonnées partout.
Ouais.
Puis de toute façon, au niveau des cas, ça suppose que le test PCR est valable à 40 ouais. cycles ou à 35 cycles, etc., et qu'il ne l'est pas.
Il ne l'est absolument pas.
Je pense que ça s'est démontré. Et de toute façon, le procès que va intenter la déposition de preuves de Fulmich est fondée sur le fait que les tests PCR sont non valides,
ouais,
qu'ils ne distinguent pas...
Que toute la pandémie, à la base, a été déclarée là-dessus.
Sur des tests PCR frauduleux.
Ouais.
Donc, les statistiques, en tout cas en ce qui concerne les cas, je ne parle pas des hospitalisations, mais en termes de cas, sont fortement remises en question.
Puis, tu vois, c'est ça qui devient extrêmement compliqué quand tu joues dans les données, parce que tu as tous ces problèmes méthodologiques-là. Tu dis, qu'est-ce qui est un cas? C'est quelqu'un qui teste positif à un test PCR. Mais les tests PCR, on sait que les CT sont super exagérés. C'est que tu travailles toujours sur des données qui contiennent elles-mêmes potentiellement du mensonge.
Exactement.
Fait que, comme ça devient dur d'aller dans une direction ou d'aller dans une autre, parce que tu dis, il faut toujours que tu considères qu'il y a des inconnus à chaque étape. Ça devient extrêmement ça donne mal à la tête, en fait, regarder ces données-là.
En fait, peut-être qu'il va falloir abandonner d'étudier les statistiques éventuellement.
Oui, puis tu vois, ça me fait, cette histoire-là me fait réaliser parce que, tu sais, j'étais parti en fou, j'étais allé sur Twitter, puis j'ai dit ça prouve que les vaccins sont l'efficacité négative, pour me rendre compte que ah non, c'est plus nuancé que ça. Puis j'ai comme fait un peu un fou de moi. Puis ça me fait réaliser, tu sais, comme j'étais allé m'expliquer, dire ah non, finalement, c'est pas une preuve irrévocable, c'est juste, ça fait juste refléter la situation, c'est pas ça n'exclut pas l'hypothèse, mm-hmm. mais ça ne prouve pas. Puis ça me fait réaliser en fait que tu sais, on focus beaucoup sur les vaccins. Mon focus, je pense, la raison pour laquelle nous, on focus sur les vaccins, c'est parce qu'ils veulent vacciner les enfants. Il faut juste être comme complètement perdu pour faire vacciner ses enfants, je m'excuse de le dire.
Oui, oui.
Quand ils n'ont absolument aucune chance d'avoir le moindre problème avec le coronavirus. Mm. Puis, je pense que c'est pour ça qu'on en parle, mais en fait, à la base, cette pandémie-là est frauduleuse. La pandémie, l'état d'urgence de l'OMS a été déclaré sur un mensonge de Tedros Adhanom qui a tweeté son histoire que... Comment qu'il disait ça? J'ai-tu les notes? J'ai-tu imprimé ça? Oui, je ne l'ai pas imprimé, mais j'ai noté. Et Boswell, c'est live ça, les gars. J'ai-tu noté ça ici? L'état d'urgence a été déclaré, je pense que c'est le 3 mars 2020 ou quelque chose comme ça, sur la base d'un CFR, c'est-à-dire le Case Fatality Rate, de 3,4%. On a fait paniquer le monde entier en comparant ce taux dans le même tweet. Il dit, le Case Fatality Rate, en fait, comme la façon qu'il dit, il dit le nombre de gens atteints du COVID qui sont décédés, c'est 3,4%. Puis là, il dit, à comparaison avec la grippe, conventionnelle, la grippe conventionnelle, c'est moins de 1% d'IFR. Sauf que le CFR, c'est le Case Fatality Rate, c'est-à-dire que sur les cas diagnostiqués, il y en a 3,5 qui sont morts. Donc, les cas qui étaient positifs au PCR, déjà dès le départ, il y en avait 3,4% pardon, qui mouraient. Puis, ils comparaient ça à l'IFR, qui est l'Incidence Fatality Rate, ça veut dire dans toute la population infectée, testée ou non, dans ce que tu es capable d'évaluer que le virus a pris, ça donne moins de 1% de fatalité, de mort. Moins de 1% des personnes infectées en tout, dans toute la population, meurent. Fait que là, il nous disait, attention, 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 alerte rouge, alerte rouge. On a un coronavirus qui va tuer 3,4 fois plus que la grippe conventionnelle. Au moins 3,4 fois plus. Puis c'est là-dessus que les mesures d'urgence ont été établies. Puis ça n'a pas été long. En fait, c'est John Ioannidis qui avait ressorti les données. Puis ça, tout ça, c'est tout référencé sur Pandata, pandata.org, me semble. C'est John Ioannidis qui avait sorti que finalement, les IFR, c'était 0,26%. C'est moins que la grippe. Puis on le sait, ça fait plus d'un an qu'on le sait, là, que la raison de l'état d'urgence n'était pas vraie.
Non, c'est ça. Puis à un moment donné...
C'était basé sur des faux PCR, des fausses déclarations d'Adhanom. Puis on est encore en état d'urgence, alors que la loi sur la santé publique permet un état d'urgence pendant 10 jours. Là, tu sais, ça fait un bout qu'on le sait, nous autres, qu'on fait un low profile, que ça veut faire. Tu sais, les gens veulent pas nous entendre parler.
Explique.
À un moment donné, calice. Excusez.
Non, c'est ça.
Ça va-tu allumer quelque part?
Ouais.
On a-tu autre chose à rajouter? On finit ça? Ah, ben après, on conclut-tu l'émission ou on va revenir après la musique? Ça, c'était long, mon segment.
Ouais, on peut conclure.
On peut conclure. Donc, vous écoutiez le troisième épisode de Radio Masse Critique en compagnie de Jocelyn.
Oui.
Comment on dit ça?
Sélection musicale.
À la sélection musicale de Stéphane. À la belle voix de radio et de Nicolas, votre schizophrène paranoïde préféré
et votre mythomane.
Alors on devrait être live peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, ça reste à voir, sur Radio Fiat Lux à 20h heure du Québec le mardi prochain ou l'autre d'après, sinon on est en rediffusion les mardis qu'on n'est pas en direct. On vous embrasse, restez libres.